Bonjour à toutes et à tous. Le trimestriel L'Empaillé, qui était jusque-là diffusé en Aveyron et dans le Lot, devient régional. Et puis la CGT, qui réclame encore et toujours pour les personnels du handicap, de l'aide sociale et de l'aide au domicile, l'augmentation de 183 euros octroyée il y a quelques mois au personnel de santé. C'est le menu du MAG aujourd'hui. Mais d'abord, musique, Maximo Park sur CFM Rhodes. Vous êtes rédacteur à L'Empaillé, un magazine qui nous propose désormais une édition régionale. Parce que je vous avais appelé il y a quelques mois, vous diffusiez uniquement sur l'Aveyron et le Lot, si je ne dis pas de bêtises. Et là, c'est quasiment l'ensemble de l'Occitanie que vous couvrez désormais.
Voilà, en tout, on est sur 11 départements, donc c'est à peu près toute l'Occitanie, hormis le secteur de Montpellier.
C'est une bonne nouvelle pour vous, non ?
Oui, c'était beaucoup de travail, mais voilà, il y a eu une récolte de fonds qui a été faite. On a fait pas mal de travail de contact pour avoir le plus possible de contributions de toute la région, essayer de couvrir un peu en termes de contenu un peu tous les combats qu'on a envie de relayer sur cette région. Et donc, voilà, c'est parti.
Ouais, alors 3 euros le numéro, on le rappelle, un tirage de 25 000 exemplaires. Et L'Empaillé qui est disponible donc dans les kiosques de 11 départements d'Occitanie. On le trouve facilement ou faut encore un peu chercher quand même?
A priori, on va dire que c'est sur cette première diffusion, ça risque d'être à peu près dans tous les kiosques, normalement. Bon, c'est possible qu'on fasse un kiosque d'un petit village qui n'y soit pas, mais à peu près dans toutes les villes, moyennes et petites villes, ça y sera dans tous les kiosques. Sinon, faut nous contacter, il n'y a pas de problème.
Bon, pour ceux qui ne connaissent pas encore L'Empaillé, c'est quoi un petit peu la ligne éditoriale, Simon ?
Ben, disons que c'est, on se range dans la presse libre, c'est-à-dire pas de publicité, pas d'actionnaire, bon, très peu de subventions, en tout cas des subventions qui seraient pas contraignantes. Et après, nous, c'est un local journal, un journal local d'info qui est clairement dans le camp d'élite sociale, on dit, et voilà, on relaie les combats, qu'ils soient écologiques, féministes, qu'ils soient les combats des salariés. Et à côté de ça, tout un travail qu'on mène de contre-information, en s'attaquant au pouvoir politique et patronaux au niveau régional maintenant. Et également un troisième axe qui serait plus de l'ordre qui peut être de l'ordre de la réflexion, de travailler autour des imaginaires, avec des papiers aussi qui sont plus personnels, plus intimistes ou décalés que l'écriture journalistique, disons, classique.
Alors des sujets, vous nous l'avez dit, qu'on ne retrouve pas forcément par ailleurs dans la presse écrite régionale ou nationale, hein, d'ailleurs. Quelques exemples avec ce numéro, premier numéro de régional de Lampaillé, qu'est-ce qu'il y a dedans?
Eh ben, par exemple, il y a quelque chose qui est relevé dans la Dépêche, c'est une critique de la Dépêche et du groupe La Dépêche notamment, qui maintenant a le monopole sur la presse écrite dans la région, donc c'est quand même très problématique, d'autant que c'est une presse qui penche de plus en plus à droite. Et donc on a une grosse critique de ce groupe et de son histoire aussi, hein, qui est quand même aussi problématique depuis la collaboration jusqu'à aujourd'hui. Et après, bon, on a des sujets plus d'actu national, nationale sur les lois sécurité. On a des pages sur les maires de Toulouse, Montauban ou Tarbes, alors que ce soit sur un aspect sécuritaire pour Toulouse ou sur les affaires judiciaires qui entourent les maires de Montauban et Tarbes. Mmh. Et après, sur des projets, alors, il y a un projet de méga-scierie à la Neuzan, il y a la multiplication d'installations d'éoliennes industrielles dans les Corbières, il y a une mine de tungstène dans le Tarn qui pose aussi problème. Et après aussi des gros sujets, donc là peut-être plus décalé, on va dire, sur les cépages de raisins interdits, sur les abattoirs industriels, sur le relais montagnard en Ariège, qui est une auberge un petit peu alternative, qui est menacée par la mairie d'Ibled.
En une, c'est une photo de manifestation, je crois, avec le titre feu, hein, si je dis pas de bêtises.
Ouais, disons que c'est une photo qui c'est plusieurs personnes autour d'un brasero. Alors après, on imagine ce qu'on veut là-dessus.
Cet élargissement de la diffusion à l'ensemble de l'Occitanie, ça correspond aussi à un élargissement des collaborations. Enfin, vous êtes plus nombreux à travailler, à écrire.
Ouais, mais c'est ce que je disais. Il y a vraiment eu une recherche. On avait déjà des personnes qui, même dans le comité de rédaction, on avait déjà des personnes qui étaient en Ariège ou ailleurs. Et là, dès qu'on a fait ce travail-là, d'essayer de hormis ceux qu'on connaissait déjà dans ces différents départements, de trouver des personnes qui sont déjà dans des médias ou qui pouvaient relayer des choses un peu dans chaque département. Et pour l'instant, c'est en bonne voie. Après, on recherche toujours, hein, des personnes qui voudraient collaborer régulièrement ou occasionnellement, qui soient de Montauban à Foix ou de Rodez à Tarbes, c'est toujours ouvert pour avoir le plus possible de contributions.
D'accord. Tiens, bah, comment on fait pour vous contacter si éventuellement on a une petite plume, des idées et l'envie de...
Eh ben, disons, on a notre mail, empaille, empaille2le, @risup.net, RISEUP.net.
L'empaillé, la parution, c'est tous les trimestres, hein?
Voilà, on parle là-dessus pour l'instant, ouais.
D'accord, avec une envie, si tout va bien, si tout se passe bien, de devenir quoi, mensuel?
Oh bah, tout est possible, hein. Oh. Tout est possible. Ça dépend beaucoup de l'accueil qu'il y aura et des ventes qu'on peut faire. C'est vrai que on dépend beaucoup de ça parce que un mensuel, ça demande plus de moyens financiers, ça demande aussi plus de moyens humains. Mm-hmm. Mais déjà, on va essayer de tenir le trimestriel, ce sera déjà pas mal.
Ouais, ça sera déjà très bien. 3 € le numéro, le premier. Régional est d'ores et déjà disponible. On peut aussi s'abonner, j'imagine.
Tout à fait. Le mieux, ça peut être, enfin, si on a le journal, il y a le petit encart d'abonnement, mais après sur le site, hein, www.lempaille.fr, mm-hmm. Il y a une possibilité d'abonnement en ligne.
Vous êtes réseaux sociaux, vous, ou pas du tout? C'est vraiment papier, papier, papier.
Ah, on a un compte Facebook, un compte Twitter. On se met à la page. D'accord. Si on est très critique sur ces réseaux-là, mais on y est aussi.
Alors ce premier numéro régional, donc on est au mois de mars, ça veut dire que le deuxième, ça sera avril, mai, juin, au mois de juin, avant l'été?
On vise le mois de juin, oui.
Et vous avez une petite idée, enfin vous savez sur quoi vous travaillez, un petit aperçu de ce qu'il y aura dans ce numéro 2?
On a plein de choses en tête, on avait commencé à bosser sur l'Aveyron, sur les grandes fortunes, et c'est toujours quelque chose, oui, qu'on a envie d'enquêter là-dessus au niveau régional, hein, sur la bourgeoisie au niveau régional, ces lieux de sociabilisation, ces lieux d'influence, c'est un sujet qui nous tient à cœur. On a le port, l'extension du port de Port-la-Nouvelle qui est aussi sur les tuyaux, on a Voilà, j'ai pas tout en tête, mais on aura de quoi remplir un prochain numéro sans problème.
Merci beaucoup Simon d'avoir été avec nous. On va souhaiter longue vie à Lampaillé, version régionale, donc disponible sur 11 des 13 départements d'Occitanie. Les deux qui manquent, c'est le Gard et l'Hérault, hein, si je dis pas de bêtises. Hein.
Tout à fait, même si on est sur le secteur de Béziers quand même.
C'est bien noté, Hérault. Voilà. Merci beaucoup Simon.
Merci à vous.
À suivre dans le mag sur CFM Rhodes, les oubliés du Ségur en Aveyron, qui réclame l'augmentation octroyée au personnel de santé fin 2020. Mais d'abord, musique, Police, Roxane sur CFM Rhodes. CFM Rhodes, le MAG et le syndicat de la CGT qui faisait une conférence de presse, c'était hier midi dans ses locaux d'Onet-le-Château, la CGT et surtout sa délégation, son secteur des personnels du handicap, de l'aide à domicile et de l'aide sociale qui réclament une augmentation dont ont pu bénéficier les personnels de santé il y a quelques mois. Francis Cunac, délégué syndical CGT de l'association du centre hospitalier Sainte-Marie.
Notre lutte, c'est toujours la même. Nous, ce qu'on veut, c'est 183 euros pour tous et pas uniquement pour la fonction publique hospitalière. Il y a aussi le secteur privé, le secteur du handicap, les aides à domicile, etc. Et force est de constater qu'un an après, le compte n'y est pas. Il y a toujours beaucoup d'oubliés. Des gens qui ont été pourtant en première ligne, qui tous les jours font un boulot égal à ceux de la fonction publique, mais qui ne sont pas revalorisés, avec toujours les mêmes problèmes d'avenir pour toutes ces structures-là, qui ne sont plus concurrentielles au niveau des salaires, puisque l'écart salarial se creuse de façon démesurée. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que cette crise, elle a mis quoi ? Elle a mis en évidence la honte de ces bas salaires pour les aides-soignants, les infirmiers, les éducateurs, les psychologues, les aides à domicile, tous ces gens-là qui s'occupent des personnes et qui ont des salaires de misère, quoi.
Il y a quelques mois, quand j'étais venu vous voir, entre-temps, j'ai eu le sentiment qu'il y avait quand même eu des avancées. Certains personnels qui n'étaient pas concernés au mois de septembre l'ont été à Noël, voilà. Mais il en manque encore.
Alors, il y avait eu une mission dite la Fourcade, qui devait soi-disant colmater les trous de la raquette. Sauf qu'on s'aperçoit, quand on fait le bilan, que cette mission de la Fourcade, qu'elle a accouché de miettes. C'est des miettes. Il y a eu quelques structures du privé qui avaient été oubliées dans un premier temps, qui ont été servies. Ça représente très peu de personnel. Et là, quand on fait le bilan sur dans l'Aveyron, par exemple, tous les salariés du groupe Opteo, 100 salariés de l'association Sainte-Marie, une grande partie de l'établissement UTSMA, de tout ce qui travaille à domicile, des soignants ou autres, sont oubliés. Voilà, ça c'est un scandale, quoi.
Alors c'est la faute à qui ?
Moi, je pense que il y a un problème d'État, déjà, et de décision. La mission qui a été, et le cadre qui a été donné à Monsieur Lafourcade, il était trop étroit, il n'était pas à la hauteur des enjeux, et il laisse beaucoup d'inégalités, beaucoup de colère chez les soignants, chez les travailleurs dans le handicap, dans l'action sociale, dans l'aide à domicile. Moi, j'ai aussi un gros coup de gueule à pousser vis-à-vis des politiques. Bougez-vous, vous donnez des milliards à des boîtes et il n'y a aucun retour. Même des fois, ils ferment, et ils licencient. Si on veut un système de santé à la hauteur des besoins en France et d'une nation qui se veut être la cinquième puissance du monde, il faudrait quand même qu'on arrête de payer à coup de fronde les gens qui se bougent tous les jours pour assumer des soins de qualité, voilà, qui sont frustrés. Ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'il faut arrêter l'hémorragie de soignants, quoi. Les soignants, ça fait un an et demi qu'ils sont sur la brèche. On continue à fermer des lits. On continue à ne pas remplacer les personnels absents. Il y a énormément d'infirmiers, d'aides-soignants, de tous les professionnels, d'éducateurs, etc., qui quittent leur boulot, qui changent de job, parce que les contraintes qu'ils ont sont énormes, et en contrepartie, les salaires sont minables, quoi. Il faut le dire, quoi. Quand des éducateurs, des infirmiers finissent leur carrière à 2000 euros, avec des contraintes énormes, des responsabilités, moi, je trouve que...
Est-ce que, du coup, avec ces personnels qui n'ont pas encore touché ces augmentations de salaire, du coup, il y a un peu deux classes de soignants, vous avez ce sentiment-là ?
Ah oui, tout à fait, il y a deux classes, il y a deux classes, il y a 500 euros d'écart d'un salaire, c'est pas rien, sur une année, ça fait plus de 6000 euros d'écart pour faire le même boulot. On fait le même boulot, quand on s'occupe de personnel handicapé, quand on s'occupe de patients psy, quand on s'occupe de gens pour les aider à rester à domicile leur fin de vie. Je crois que c'est des métiers qui méritent la même reconnaissance que la fonction publique hospitalière. C'est une honte, d'ailleurs, en France, que des professionnels de santé et de l'action sociale ou éducative n'aient pas les mêmes salaires, quel que soit leur lieu d'activité, qu'elle soit privée, publique, privée lucrative. Privé associatif ou non lucratif, on devrait avoir les mêmes salaires, on fait le même job.
Alors en ce moment, il y a un mouvement social là en Aveyron qui concerne les personnels de l'UTSMA, c'est sur ces sujets-là ?
Oui, le personnel de l'UTSMA est sorti et est en grève sur les mêmes lignes qui feront que le 8 avril on se mobilise. C'est d'une part les salaires trop bas, c'est le manque de personnel, c'est les conditions de travail. Quand on fait des coupés, qu'on commence le matin à 6h30 et qu'on finit à 20h et qu'on vous rajoute en plus d'aller tourner pour vous faire finir à 20h30, 20h40 et que pour récupérer ça, on vous dit un jour, là, un moment où ça vous intéresse pas, on va vous mettre une semaine en récupération fin novembre. Qu'est-ce qu'on fait fin novembre quand on vous avertit au dernier moment c'est une honte. Je dirais presque c'est des négriers, quoi. Je vais un peu loin, mais bon. Je trouve qu'elles ont raison et j'espère que ça va faire tache et boule de neige sur tout l'Aveyron, parce que pour le moment c'est Millau, mais je pense qu'elles sont toutes concernées. Il y a longtemps qu'il n'y a pas eu de mouvement social digne de ce nom dans cette structure-là, mais elles sont arrivées à un niveau où de toute manière elles n'ont plus rien à perdre.
Il y a eu beaucoup de départs, vous avez connaissance de beaucoup de départs de professionnels de santé.
Je peux vous parler plutôt de Sainte-Marie, mes collègues parleront je sais qu'entre 2019 et 2020, le nombre d'infirmiers et d'aides-soignants a doublé, qui a démissionné. Ah ouais, a doublé. Dans tous les services, vous entendez qu'ils cherchent ailleurs, quoi. Hein. Soit ils cherchent ailleurs, soit ils ont envie d'arrêter la profession pour changer carrément d'orientation professionnelle. Moi, je pense qu'on est arrivé à un niveau où c'est plus supportable, quoi. Alors, il y a des gens qui vont en intérim, il y en a qui vont en libéral. Je crois que ça, au bout d'un moment, ça va atteindre les limites, quoi. Hein. Et les autres changent de métier, quoi.
Si je devais trouver une bonne nouvelle dans tout ça, malgré tout, j'en trouverai une. C'est que là, on est encore en pleine épidémie, avec des mauvais chiffres, etc., etc. Mais vous-même, en tout cas, une bonne partie du personnel et un certain nombre des patients, des personnes dont vous avez le soin, sont vaccinés.
Oui, les patients concernés ont eu l'occasion de se faire vacciner. Les professionnels qui ont un certain âge ou qui ont des comorbidités ont pu se vacciner. C'est mon cas. Moi, je suis personnellement pro-vaccin, hein, donc je vais continuer à prôner. Après, je pense que je peux pas. Chacun est libre, mais quand même, j'apprécie pas trop la position du gouvernement de taper sur les soignants parce qu'ils veulent pas se faire vacciner. S'ils avaient pris un peu plus soin des soignants et s'ils leur avaient imposé un peu moins de contraintes, s'ils les avaient écoutés un peu plus, comment se fait-il qu'ils soient pas en première ligne de la vaccination? Ils savent vacciner, ils sont au plus près, ils le font, ils font des vaccinations sur la grippe, etc. Pourquoi là ils sont oubliés? Il y a des soucis, il y a des trucs qu'on ne comprend pas, quoi.
Alors il y a des personnels qui veulent bien vacciner, mais peut-être les mêmes qui ne veulent pas être vaccinés eux-mêmes. On est sur des chiffres, alors je sais plus, justement le gouvernement là, il disait 40% de vaccinés, je dis peut-être, mais bon, ça fait pas beaucoup quand même, pour des soignants.
Oui, c'est peut-être aussi le résultat de la politique du mensonge, quoi. Si à un moment donné, face à des vaccins qui ont posé problème, il y en a pas beaucoup, hein, mais certains, moi je me rappelle du vaccin contre l'hépatite, hein, s'ils avaient joué carte sur table, au lieu de mentir et de cacher, ben peut-être qu'on ne serait pas là aujourd'hui.
Le 8 avril, c'est quoi
Alors le 8 avril, c'est une journée d'action nationale à l'initiative donc de la CGT, de Force ouvrière, la CGC, Sud et CFTC. Voilà, donc on va essayer aussi de regrouper les organisations syndicales du département qui voudront bien se répercuter dans ce mouvement-là. Mais il y a plusieurs thèmes dans cette revendication du 8 avril. C'est d'une part qu'au niveau des salaires, l'argent n'y est pas. C'était la revendication nationale, c'était 300 euros. 300 euros brut, pourquoi? Ça peut paraître énorme. Non, c'est pas énorme. C'est simplement pour remettre les soignants français au même niveau que tous les pays de l'OCDE. Puisqu'on est très très loin. On était au 34e rang pour la rémunération des soignants dans les pays de l'OCDE. Donc ce qui a été donné, ça comble un peu, mais on est quand même loin du compte de la moyenne. Donc voilà pourquoi on demande 300 euros, c'est pas excessif. Et pour rappel, la convention collective 51 et 66, hein, il y a une conférence des salaires qui a bien marqué que ces deux conventions avaient subi les plus fortes pertes de pouvoir d'achat dans les 20 dernières années. C'est-à-dire que si on avait suivi le cours moyen de l'augmentation des salaires du privé, on gagnerait aujourd'hui 500 euros de plus. Donc quand même, il y a un gros retard. Et c'est aussi pourquoi il y a une telle hémorragie de soignants dans nos structures.
Allez, on passe le micro à Nasser Issad, délégué CGT de la fondation Opteo, ex-ADAPI 1282.
Nous sommes les parents pauvres de la santé. Souvent, ceux qui s'occupent du handicap, malheureusement, sommes toujours un petit peu lésés. Souvent. Ouais. Donc là, les 183 euros qui ont été octroyés aux hôpitaux publics et après la mission Laforcade aux établissements dépendants qui sont rattachés à ces hôpitaux publics, nous, on est complètement exclus. Alors on parlait, comme vous le disiez tout à l'heure, des mobilisations que nous avons faites auparavant, où on disait on est les oubliés. Sauf que maintenant, on est les exclus. Nous ne sommes plus les oubliés, on est carrément exclus. Donc on voudrait que ce gouvernement revienne un petit peu et voit, comme le disait Francis tout à l'heure, que nous sommes aussi dans la santé. Et que nous travaillons auprès de personnes qui ont besoin de nous, de l'accompagnement que l'on fait tous les jours pour ces personnes-là qui sans nous ne pourraient pas avoir une vie entre guillemets normale. Donc il faudrait que nous aussi, on soit reconnus. Et comme on nous a dit en 2019, puisque à DAPI, anciennement DAPI 1282, on est passé fondation Optéo, on nous a bien vendu qu'on était devenu une FRUP, alors ça m'a toujours plu, une FRUP, c'est une fondation reconnue d'utilité publique. Donc ça veut dire que si on est reconnu d'utilité publique, on nous a un petit peu oublié, hein. On nous dit qu'on est d'un côté public et puis de l'autre côté, on nous dit que vous n'avez pas droit aux 183 euros.
Pourquoi on vous dit que vous n'y avez pas droit à ces 183 euros au niveau du gouvernement? C'est quoi leur explication?
Pour l'instant, je n'ai pas leur explication. Je pense que pour eux, c'est un coût. Ouais. C'est juste ça. Sauf que le coût, au départ, comme nous, on le souhaite au départ, c'était les 300 euros pour tous les personnels qui s'occupent de la santé en France, que ce soit les aides à domicile, ceux qui s'occupent de personnes handicapées, les hôpitaux, tout le monde. 300 euros pour tout le monde, c'était ce que t'es demandé. Donc, on arrive à un compromis de 183 euros, et bien au moins que ce compromis soit mis pour tout le monde, quoi. Voilà.
Et au niveau de la direction d'Optéo, pourquoi ils font pas la démarche personnelle, j'ai envie de dire?
Alors, leur démarche qui est faite à leur niveau, c'est au niveau du syndicat employeur qui s'appelle Nexem et qui, eux, ont demandé également au gouvernement de revoir un petit peu leur copie aussi et de faire en sorte que ces 183 euros nous reviennent aussi dans le secteur du handicap. Après,
parce que eux, ils peuvent pas prendre la décision. C'est une direction, c'est vos employeurs, vos patrons, ils peuvent pas prendre la direction d'augmenter tout le monde.
Non, c'est-à-dire que nous, on est financés. Ouais. Donc c'est le financeur. Alors nous, on a deux financeurs, on va dire. D'un côté, les ARS qui financent certains établissements, et après les conseils de département qui financent d'autres établissements, et parfois des établissements qui sont financés par les deux. Ouais. Donc c'est assez compliqué. Donc c'est au financeur à qui il faut demander. Et en fin de compte, si on regarde, le financeur, c'est l'État.
Vous avez des personnes de l'USMA là qui sont en grève. L'Optéo, j'ai pas entendu.
Optéo, alors on n'est pas en grève, mais on a été quand même mobilisé. On a commencé à la première mobilisation où on s'est retrouvé, c'était le 15 octobre. Ensuite, on s'est retrouvé le 3 décembre et on s'est encore mobilisé le 21 janvier. Et toujours à propos de ce Ségur de la santé. Donc, on essaie de mobiliser et c'est un petit peu compliqué de mobiliser le personnel car on est quand même éclaté en 48 établissements sur l'Aveyron et le Tarn-et-Garonne.
Voilà, c'est la fin du MAC pour aujourd'hui. Excellente journée à tous. Rendez-vous demain même heure pour...